nature humaine, soit à la personne du Père, soit à la personne de l'Esprit-Saint, tout de même qu'à celle du Fils. Et c'est pourquoi le Père et le Saint-Esprit auraient pu s'incarner comme le Fils. Je crois qu'il n'y a aucune difficulté à ça. C'est une limpidité merveilleuse. Une fois que vous avez compris que l'acte d'assomption relève de la toute-puissance de Dieu qui est commune aux trois, et que le terme de l'assomption est toujours une personne, vous pouvez comprendre que ce qui est arrivé pour une personne aurait pu arriver pour une autre personne. Article 6. Deux personnes divines peuvent-elles assumer une seule et même nature individuelle? Alors là, on trouve, ça c'est tout à fait du possible, c'est d'une certaine manière plus très théologique. C'est vraiment une petite discussion, alors on peut aller très très vite aussi là-dessus. C'est simplement pour purifier votre imagination. Si de temps en temps, dans votre méditation, vous pourrez dire, mais oui, au fond, il y aurait pu avoir dans la même nature humaine le Fils et le Saint-Esprit. Alors, comment se serait-il comporté devant le Verbe qui assume la nature humaine et puis l'Esprit-Saint qui, immédiatement après, s'il y avait de la rivalité dans la très sainte Trinité, si on était en face d'un Olympe grec, alors on aurait vu comme ça immédiatement. Le Fils a une priorité sur le Saint-Esprit. Il assume la nature humaine. Alors immédiatement après, l'Esprit-Saint va assumer la même nature. Peut-il assumer la même nature? La personne incarnée subsiste en deux natures, la divine et l'humaine. Or, les trois personnes subsistent en une seule nature divine. Elles peuvent donc aussi subsister en une seule nature humaine, de telle sorte qu'une seule nature soit assumée par les trois personnes. C'est assez cru. Comme raisonnement, hein. Voyons le corps de l'article. Parce que le petit raisonnement du début est quelquefois un peu serré, tourne-bride, hein, c'est un peu serré. Comme il a été dit déjà, de l'union de l'âme et du corps dans le Christ. Donc, comme il a été déjà dit, de l'union de l'âme et du corps dans le Christ, ne résulte pas une nouvelle personne ou une nouvelle hypostase, mais une nature assumée en la personne ou en l'hypostase divine. Et cela se fait non par la puissance de la nature humaine, mais par la puissance de la personne divine. Or, telle est la condition des divines personnes, que l'une n'exclut pas l'autre de la communion d'une même nature, mais seulement de la communion d'une même personnalité. Ça aussi, c'est très intéressant. Tout ce que saint Thomas montre. La seule chose que le Fils a de propre, c'est d'être Fils. Tout le reste, le Père l'a. Et donc, tout ce que le Fils fait, le Père peut le faire. Puisse donc qu'au dire de saint Augustin, il ne faut point chercher d'autres raisons de ce qui s'est fait en ce mystère que la puissance de celui qui l'a produit, il convient plutôt de juger les choses d'après la condition de la personne qui assume et non d'après la condition de la nature humaine assumée. C'est pourquoi il n'est pas impossible que deux ou trois personnes divines assument une seule nature humaine. Mais il ne serait pas possible d'assumer une seule hypostase ou une personne humaine, comme le dit saint Anselme. Plusieurs personnes ne peuvent assumer un seul et même homme. Vous voyez bien. Vous avez pigé l'histoire, hein? Ah, c'est encore très subtil, c'est comme toujours, c'est une espèce de subtilité, de scapène théologique qui passe là en coupe. Exactement. Qu'est-ce que les personnes divines peuvent assumer en même temps ? La nature humaine. Ça, c'est sûr. Mais puisque l'assomption se fait dans la personne, la nature est assumée dans la personne. Vous comprenez que s'il y a le Fils qui assume la nature humaine et que l'Esprit Saint veut assumer cette nature humaine, hein, le petit chêne, parce que c'est merveilleux que le petit chêne tombe tout de suite. La nature humaine comme telle peut être assumée par le Fils et peut être assumée par l'Esprit Saint. Aucune impossibilité. Mais attention, si vous regardez la nature humaine en tant qu'elle est assumée dans le Fils, elle ne peut pas être assumée par l'Esprit Saint. En tant que... Puisque en tant qu'elle est assumée dans le Fils, elle a sa personne qui est le Fils. Or, l'Esprit Saint ne peut pas assumer la personne du Fils. C'est bon, alors.
Je me rends une hypothèse, donc s'il y a deux personnes assumées, l'union se termine ni à la personne.
Il y a deux personnes assumées,
oui. Puisque saint Thomas conclut en disant qu'il est donc possible que deux ou trois natures assument une nature.
Oui. Une unité. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Du côté de l'acte, pas du côté du terme. Oui.
Alors, si deux personnes divines assument une nature humaine unique, l'union ne se terminera ni à la nature, ni à la personne.
Jamais la nature, c'est jamais la personne.
À la personne, oui, mais justement, elles sont deux. Donc elles se terminent. Mais alors, où est l'unité ?
Quoi ?
Où est l'unité ? L'unité du terme, parce que le terme est un.
Mais non, le terme est deux.
Pour le terme est
deux. Oui, le terme est deux, c'est tout. Pourquoi voulez-vous que le terme soit un ? Aucune impossibilité, le terme est deux. C'est ça que vous montrez, c'est pour ça que saint Thomas fait cette petite remarque à la fin. Vous voyez, c'est que la nature humaine, comme nature humaine, enfin, sur laquelle agissent les trois personnes divines, alors, il l'assume vers le Fils, il peut l'assumer vers l'Esprit Saint. Mais l'Esprit Saint ne peut pas assumer la nature humaine en tant qu'elle se termine au Fils. Mais la nature humaine peut se terminer au Fils et à l'Esprit Saint.
L'hypothèse qu'il assume en même temps, que le Fils et l'Esprit Saint assument
en même temps. Mais c'est évident.
Alors,
mais il n'y a aucune impossibilité. Pourquoi en même temps ? Oui, en même temps. Oui, mais je ne vois pas pourquoi. Pourquoi vous mettez une impossibilité quand il est en même temps ? C'est un rapte divin. Alors, un rapte divin en même temps.
Le Fils et l'Esprit Saint peuvent assumer en même temps une seule nature.
Mais oui. Tout à fait, aucune impossibilité. Et se termine au Fils et à l'Esprit Saint. Et cette nature subsiste dans le Fils et dans l'Esprit Saint.
Oui. Et si les trois sont assumés,
oui.
Si les trois sont assumés, est-ce qu'on peut dire que dans ce cas-là, c'est la personne, en fait, elle est dite essentiellement de Dieu, qui est le thème de l'Assomption?
Oui, c'est la personne qui est...
En primé, en tant qu'elle est attribuée essentiellement ou notionnellement ?
Notionnellement, toujours.
Donc c'est les trois personnes qui sont au thème.
Mais non, essentiellement. Elle est assumée par le Père, elle est assumée par le Fils, elle est assumée par l'Esprit Saint. Et le terme est le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Oui, forcément, ça ne peut pas être autrement.
Non, parce que ça pourrait être, dans la mesure où Dieu, un, a raison de personne, ça pourrait être...
c'est encore une autre hypothèse. Non, partons de l'hypothèse qui est faite. L'autre hypothèse, c'est est-ce que Dieu, dans son unité, pourrait assumer personne ? Est-ce que Dieu, dans son unité, pourrait assumer la nature humaine ?
C'est
l'article premier du mot 3. Oui. Alors, voyez, ce qui est intéressant, ce qu'il faut essayer, c'est... Il y a un petit jeu théologique. Il faut se comprendre que ce petit jeu théologique, c'est pourquoi ? C'est pour qu'on comprenne mieux ce que la sagesse divine a fait. C'est uniquement pour ça, vous comprenez ? Parce que je peux m'intéresser à ce jeu, alors c'est un jeu intellectuel merveilleux. Ce qu'appelle du théologien là, montre exactement ce qu'il faut faire, et c'est beau, ça assouplit notre intelligence du théologien, un exercice. Bon. Mais comprenons bien, saint Thomas ne joue pas en faisant ça. Saint Thomas veut nous faire comprendre la raison profonde pour laquelle, de fait, le mystère de l'incarnation s'est réalisé dans le Fils. Et c'est pour ça que ça arrive au terme. Hein. Vous voyez bien. Il y aurait d'autres possibilités. Donc on comprend mieux le choix divin. Parce que toujours, les possibles permettent de mieux saisir le choix. Article 7. Une seule personne divine peut-elle assumer deux natures humaines ? Alors, l'autre possibilité. Hein. Ce serait Jésus et Marie. Vous voyez ? Est-ce qu'une personne divine peut-elle assumer deux natures humaines ? Cependant, tout ce que peut le Père, le Fils le peut aussi. Mais le Père, après l'incarnation du Fils, peut assumer une nature humaine, autre numériquement, que celle assumée par le Fils, du fait de l'incarnation du Fils. En effet, la puissance du Père ou du Fils n'a diminué en rien, c'est sûr. Il semble donc qu'après l'incarnation, le Fils puisse assumer une nature humaine autre que celle qui a été déjà prise. Hypothèse de Mahomet. Oui, bien, c'est ça. Hein. Pourquoi es-tu chrétien ? Si tu es chrétien, tu dois comprendre que Jésus a promis que le paraclet viendrait, et le paraclet, c'est Mahomet. Ce petit bonhomme qui me disait ça. Hein. C'est merveilleux de voir ça. Enfin, il y a une espèce, donc, il peut y avoir une autre incarnation après celle du Fils, qui serait l'incarnation de l'Esprit Saint. Qui viendrait pour achever et terminer. Saint Thomas nous dit dans le corps de l'article, « Pouvoir faire une chose déterminée et pas davantage, c'est posséder une puissance limitée. Or, la puissance d'une personne divine est infinie et ne peut se limiter à quelque chose de créé. L'on ne doit donc pas dire qu'en assumant une nature humaine, la personne divine sera incapable d'assumer une autre. » Ce serait en effet admettre que la personnalité de la nature divine est limitée à ce point par une nature humaine qu'une autre ne puisse lui être adjointe. Et cela est impossible, car le créé ne saurait poser des limites à l'incréé. Soit donc que nous le considérions dans sa puissance, qui est principe de l'union, soit que nous la considérions dans la personnalité, qui est le terme de l'union, il ressort avec évidence que la personne divine, en plus de la nature humaine, qu'elle s'est unie, peut encore en assumer une autre. Bon, je crois que ce n'est pas très difficile à comprendre. C'est tout simplement, ça ferait une limite à la puissance de Dieu. Alors nous avons ensuite l'article 8 que nous avons vu, et il faudrait le relire maintenant, alors on comprendrait parfaitement toute la signification de toute cette question qui se termine à l'article 8. Le sommet de cette question, c'est l'article 8, pour nous montrer la convenance propre de l'incarnation qui se fait par le Verbe, par le Fils. Il reste encore combien de temps ? Combien ? 20 minutes, très bien. Bon, alors, on va tout de suite commencer la question 4. Sauf s'il y a des questions, hein. S'il y a des questions, posez-les. Oui.
Est-ce que ce qu'on vient de voir ne montre pas pourquoi Saint Thomas n'a pas utilisé le sacerdoce pour montrer la convenance de l'incarnation du Fils ? Parce que, avec ce qu'on a vu, seule l'appropriation, puisque la nature, où chacune des personnes peut assumer, seule par l'appropriation seulement, on peut montrer la convenance.
La convenance.
Tandis que le sacerdoce, ce serait une sorte de pétition de principe.
Oui, et puis le sacerdoce, oui, c'est toujours la même chose. Saint Thomas, tant que je crois dans son souci de théologie scientifique, montre l'incarnation distincte de la rédemption. Autant dans le mystère de la rédemption, le sacerdoce prend toute sa valeur. Autant dans le mystère propre de l'incarnation, Saint Thomas regarde les personnes. C'est le thème. L'assomption se fait au terme dans le Verbe, et non pas dans le sacerdoce. Et c'est le Verbe qui doit, la personne elle-même, donc le terme de l'assomption, dans lequel on doit trouver une convenance. Et c'est pour ça que le mal n'est pas très bien. Oui, c'est très logique. Oui.
Concernant ce qui a été dit la fois dernière, le sacerdoce, c'était le comment de la révélation des trois personnes. Mais je ne suis pas obligée de formellement avoir de faire intervenir le sacerdoce pour maintenir la réflexion de l'infini. Parce que si on comprend que la finalité de l'incarnation, c'est quand même de nous révéler les trois personnes divines, la finalité ultime.
Oui.
Eh bien, on n'est pas obligé de faire intervenir comme tel le sacerdoce. Il suffit de prendre finalité de l'incarnation égale révélation des trois personnes.
Est-ce que la révélation, vous voyez, la finalité ultime de l'incarnation, c'est de révéler le Père? C'est le Fils. Et ça n'a pas le sacerdoce directement.
C'est la manière dont...
Oui, oui, exactement. C'est une autre question qui vient après. Question 4. L'union envisagée par rapport à ce qui est objet d'assomption. Il nous faut maintenant considérer l'union par rapport à ce qui est objet d'assomption. Ex parte assumpti. Oui, l'objet d'assomption. Oui. Ex parte assumpti, c'est plus clair. Si on connaît un peu le latin. Par rapport du côté de l'union, ex parte du côté de ce qui est assumé. Assumpti. Et à ce propos, notre attention doit se porter en premier lieu sur les réalités assumées par le Verbe de Dieu. Les réalités assumées par le Verbe de Dieu. En second lieu, sur les réalités adjointes aux premières et assumées par voie de conséquence, c'est-à-dire sur les perfections et les déficiences. Vous voyez les deux grands aspects de cette question, qui sont plus qu'une question, Le Fils de Dieu a assumé la nature humaine et ses parties. Dès lors, une triple étude s'offre à nous, touchant premièrement la nature humaine, deuxièmement ses parties, troisièmement l'ordre de leur assomption. Donc on est du côté de ce qui est assumé. Ce qui est assumé, c'est la nature humaine. Alors on étudie, c'est plus matériel, vous voyez ici comme étude, c'est forcément... C'est ce qui est assumé. Alors, sur le premier point, six questions se posent. Le premier point, c'est la nature humaine. La nature humaine est-elle plus apte à être assumée par le Fils de Dieu que toute autre nature? Ça, c'est très intéressant. Le Fils de Dieu a-t-il assumé une personne? A-t-il assumé un homme? Eût-il été convenable pour lui d'assumer la nature humaine abstraite des singuliers qu'il individualise? La nature en soi, Platon. Eût-il été convenable d'assumer la nature humaine dans tous les singuliers qui la participent? Panchrist. Convenait-il que le Fils de Dieu assumât la nature humaine dans un homme de la race d'Adam? Ce qu'il aurait pu faire un nouveau qui descendrait du ciel, le Fils de l'homme, la vision de Daniel, ça aurait pu se faire. La vision de Daniel, c'est on aurait pu dire que de toute éternité, il y avait un homme dans la très sainte Trinité, et à un moment donné, cet homme-là a été assumé par le Verbe de Dieu. Alors, c'est d'essayer de préciser. Vous voyez que la question clé, posez-vous toujours la question, posez-vous toujours l'interrogation, quand vous faites l'analyse d'une question, quel est l'article clé qui commande tous les autres, sur lequel on doit voir tout de suite et projeter toute la lumière? Évidemment, ici, je crois que c'est l'article premier. Tandis que dans la question précédente, c'était vraiment l'article 8, ça qui commandait tout. Alors, la nature humaine était-elle plus apte que toute autre nature à être assumée par le Fils de Dieu? Alors, la première objection. Il ne semble pas que la nature humaine fût plus apte qu'une autre à être assumée par le Fils de Dieu. Saint Augustin écrit en effet dans sa lettre à Volutianus, dans les événements miraculeux, ce qui se produit n'a d'autre cause que la puissance de celui qui opère. Mais la puissance de Dieu opérant l'incarnation, œuvre essentiellement miraculeuse, ne se limite pas à une nature déterminée, puisqu'elle est infinie. La nature humaine n'est donc pas plus apte à être assumée par Dieu qu'une autre nature créée quelconque. Ça, c'est tout à fait un raisonnement occamien. Oui, c'est tout à fait un raisonnement occamien. Ça, c'est très intéressant. Par rapport à la toute-puissance de Dieu, tout est tellement relativisé. Une fourmi, l'homme. Tout est tellement relativisé, puisque tout est laissé participer. Et c'est vrai, ça, c'est très vrai. On relativise tout, et donc, pourquoi la nature humaine? C'est des raisonnements qu'on voit aujourd'hui. N'oubliez pas cet aspect que dit Freud, qui est quand même très intéressant, qui est faux, hein, mais qui est très intéressant, quand Freud dit, dans la vision des pères de l'Église, l'homme est montré comme ce pourquoi toute la création a lieu. Alors, depuis qu'on a montré que la Terre n'est pas le centre du monde, depuis qu'on a montré que l'homme est le fruit d'une évolution, depuis qu'on a montré que ce qui est au cœur de l'homme, c'est le complexe d'Œdipe. Non. Oui. Dégradé. Trois dégradations de l'homme, on lui a enlevé ses galons. Trois galons successifs. Alors, il n'y a plus rien du tout. Vision occamienne. C'est intéressant parce que ça existe, cette vision-là. Il faut la sentir. Il y a quelque chose de juste. Il y a quelque chose de juste. Exalter la toute-puissance, vous aurez ça. Quand vous regardez la toute-puissance de Dieu sans regarder sa sagesse. Ça existe. Enfin, il y aurait une tendance à ça dans l'islam. Et la tendance occamienne, c'est vraiment ça. On exalte la toute-puissance en ne voyant que la toute-puissance. Alors à ce moment-là, tout est relatif. Tout est dans une contingence absolue. Réponse de saint Thomas. Le livre des Proverbes fait parler ainsi la sagesse engendrée. Vous voyez, en face de la toute-puissance, la sagesse. Je trouve mes délices parmi les enfants des hommes. Non, pas parmi les fourmis. Pas parmi les petites bêtes du bon Dieu. Je trouve mes délices parmi les enfants des hommes. Ça, c'est la sagesse. La toute-puissance regarde tout. Dans un regard de toute-puissance. Il semble donc qu'il y ait quelque convenance à ce que le Fils de l'homme s'unisse à la nature humaine. Alors, on dit d'une chose, qu'elle est assomptibilée. Assomptible. C'est une traduction littérale. On dit qu'une chose peut être assumée pour désigner son aptitude à être assumée par une personne divine. Cette aptitude, évidemment, ne peut s'entendre d'une puissance passive naturelle, car celle-ci ne s'entend pas au-delà de l'ordre de la nature. Par celle-ci ne s'étend pas au-delà de l'ordre de la nature, lequel se trouve dépassé par l'union personnelle de la créature à Dieu. Il reste donc que l'on entend cette aptitude au sens d'une convenance à l'union susdite. Or, une telle convenance se peut prendre à propos de la nature humaine à deux points de vue. Sous le regard, sous le rapport de la dignité et sous celui de la nécessité. Sous le rapport de la dignité, la nature humaine, parce qu'elle est rationnelle et intellectuelle, est capable d'atteindre de quelque manière le Verbe lui-même par son opération en le connaissant et en l'aimant. « sous le rapport de la nécessité, la nature humaine étant soumise au péché originel, avait besoin d'être restaurée. Ces deux raisons de convenance sont propres à la seule nature humaine. À la créature irrationnelle, en effet, fait défaut la raison de dignité. À la nature angélique, manque le motif de nécessité. Il s'ensuit par conséquent que seule la nature humaine est assomptible. Là, on pourrait se demander, si en bonne logique, quand vous dites nature humaine, est assomptible. Est-ce que c'est une propriété ? Ou est-ce que c'est accidentel ? Vous savez, quand on dit « l'homme est mortel », est-ce que c'est une propriété de la nature humaine d'être mortel ? C'est, d'un point de vue logique, c'est très intéressant ce genre de petite question. Alors, est-ce que le lien entre assomptible, capable d'être assumé, et la nature humaine, est-ce que c'est une propriété de la nature humaine ? Ou est-ce que ce n'est pas une propriété ?
Conséquence ?
Non, ce n'est pas une conséquence. Ce n'est pas une conséquence. On regarde du côté de la sagesse de Dieu. Vous voyez que tout l'article de saint Thomas consiste à situer la nature humaine d'une part entre la petite bête du bon Dieu, l'animal, et d'autre part entre l'ange. Je mets l'ange à la cave. Alors, est-ce que c'est entre les deux ? C'est par rapport à ça que saint Thomas va essayer de montrer que la nature humaine est dans une situation telle qu'elle a une capacité particulière à être assumée en raison de sa dignité, en raison de la nécessité. Et ceci en fonction du regard de Dieu sur elle. Alors, je crois que, c'est propriété, sûrement pas au niveau philosophique. Au niveau de la sagesse de Dieu, on peut dire oui, propriété. Que seule la nature humaine est vraiment capable d'être assumée. Alors, c'est une propriété dans la lumière de la sagesse de Dieu. Dans la lumière de la sagesse de Dieu, dans un jugement de sagesse. Quoi ? Non, pas de nécessité.
Si on peut être en la nature, mais non pas de l'ordre de la finalité.
Ah, dans l'ordre de la sagesse, la finalité est appliquée. Oui, on peut parler de propriété. Il y a une propriété du côté de la finalité. La propriété se prend du côté des quatre autos. Ah oui, la finalité.
Donc là, la rédemption.
Qu'est-ce qu'il y a ?
La rédemption
apparaît. Ah oui, la rédemption apparaît du côté de la nécessité.
Oui. Et même la nécessité se prend du côté de la nature, et pas du côté de la sagesse divine. Oui. C'est la sagesse divine, mais regardons
la nécessité. La nécessité se prend la finalité dans le sens qu'elle a besoin d'être sauvée.
Ben voilà.
Oui, ça c'est la finalité.
Mais ça ne regarde pas la nature.
Oui, ça regarde la nature. Ça s'enracine dans la nature, mais ce n'est pas la nature toute seule. C'est la nature en fonction de sa finalité.
Dans sa situation concrète.
Oui, 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 tout à fait. Non, ce n'est pas la nature abstraite. Bon, alors vous voyez ici, saint Thomas montre qu'est-ce que c'est que le point de vue. Donc, dans quelle mesure pouvons-nous attribuer, relier cette capacité d'être assumée à la nature humaine. Il est bien évident que la nature humaine considérée en elle-même n'a pas cette capacité. C'est bien évident. Elle n'a aucun ordre positif à être assumée par le Verbe de Dieu. Autrement, chaque individu pourrait revendiquer le droit d'être assumé par le Verbe de Dieu. Or, il n'y a pas d'ordre positif. Donc c'est de la pure gratuité, c'est évident. C'est donc un ordre de puissance obédientielle par rapport à la sagesse de Dieu. Une pure capacité. Dans cette capacité, on précise la situation propre de la nature humaine par rapport à l'animal, par rapport à l'ange. par rapport à l'animal, parce que c'est une nature rationnelle et intellectuelle. Voyez bien les deux que met saint Thomas ici. Hein. C'est très rare que saint Thomas précise de cette manière. In quantum est rationalis et intellectualis. D'habitude, saint Thomas dit toujours rationalis, c'est suffisant. Et ici, il précise, intellectualis. Nata est contingere aliqualiter ipsum verbum persuam operationem. Nata est, elle est capable, elle est apte en. Contingere aliqualiter. Donc d'une certaine façon, c'est bien précisé. La nature rationnelle est capable d'être assumée par le Verbe de Dieu. Tandis que la nature animale n'est pas capable d'être assumée par le Verbe de Dieu. C'est exactement la même chose qu'on dira pour la grâce. Oui, c'est le même raisonnement. La nature humaine est capable de recevoir la grâce en tant qu'elle est intellectuelle. Ce n'est pas le corps. En tant qu'elle est intellectuelle, c'est-à-dire en tant qu'elle est créée à l'image de Dieu. Imago Dei. Vous voyez, c'est très curieux, saint Thomas ne parle pas Imago Dei ici. Il en parlera après. Mais au fond, c'est impliqué. Imago Dei, parce que c'est une nature rationnelle et intellectuelle. Donc elle est capable d'être transformée par la grâce. Elle est capable d'être assumée par le Verbe de Dieu. C'est le même raisonnement. Et d'autre part, l'autre, c'est le point de vue de la nécessité, c'est que l'ange n'a pas besoin d'être sauvé. Parce qu'il n'y a pas le péché originel. L'ange pourrait être assumé, ça pourrait être, mais il n'y a pas de nécessité. Heureuse faute qui nous a valu un tel sauveur, vous voyez ? Il n'y a pas de nécessité. Bon, alors voyons maintenant tout de suite la réponse aux diverses objections. Donc, première objection qu'on soulevait, n'est-ce pas ? Le fameux texte de saint Augustin. Les créatures, réponse de saint Thomas, les créatures sont qualifiées d'après les caractères qu'elles tiennent de leur cause propre, et non d'après les caractères qu'elles tiennent des causes premières et universelles. C'est ainsi que l'on dit d'une maladie qu'elle est incurable, non pas parce qu'elle ne peut pas être guérie par Dieu, mais parce qu'elle ne peut l'être par le moyen des propres principes du sujet. L'on dira donc qu'une créature n'est pas apte à être assumée, non pour soustraire quelque chose à la toute-puissance divine, mais pour marquer l'état d'une créature qui ne possède pas cette aptitude. Ça, c'est très simple à comprendre. C'est la question du regard. L'aptitude, hein, c'est toujours la question, une question importante à saisir. Pour saisir la capacité de l'intelligence, la capacité de la volonté, pour saisir la capacité d'une nature. Vous la regardez ou en fonction de ses causes propres, ou en fonction des causes de la cause première. Une nature humaine, la nature humaine, vous regardez la nature humaine, vous la regardez ses capacités en fonction de ses causes propres, ce qu'elle est capable de réaliser par elle-même, dans son autonomie propre, selon ses principes propres. Et ce qu'elle est capable de devenir en fonction de l'action de la cause première. Ou en fonction, non seulement de la cause première, mais de la Trinité. Ce que la Trinité peut lui communiquer. Parce que c'est la cause première, c'est le point de vue de l'essai, si vous voulez. Alors, au point de vue de la cause première, on parlera de puissance obédientielle. Et au point de vue de Dieu Trine, qui communique la grâce, ou qui assume la nature humaine en l'unissant à une personne divine, alors c'est encore un autre regard. Autrement dit, il y a trois regards. Il y a le regard de la capacité en fonction des causes propres. Alors, vous regardez cause matérielle, cause formelle, cause efficiente, cause finale, tout ce qu'on est capable de réaliser. La capacité de la nature humaine. En fonction, dans son regard, dans sa relation avec la cause première, qui lui communique l'essai, qui lui donne l'essai, on parlera de puissance obédientielle. En fonction de la très sainte Trinité, qui lui communique la grâce, ou qu'il l'assume. Alors on parlera aussi de cette capacité, qui est obédientielle, c'est bien évident, elle est obédientielle, elle est toujours une capacité de soumission à l'égard d'une causalité transcendante, et de recevoir cette communication de la grâce, gratuitement. Et en fond, c'est tout le corps de l'article, c'est distinguer entre les causes immanentes et les causes transcendantes. Je ne peux pas comprendre qu'une créature soit élevée à la grâce en regardant les causes immanentes. Je ne peux comprendre l'élévation à l'ordre surnaturel que par les causes transcendantes. Il faut rentrer les objections.